Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
François-Frédéric Guy, présence débute ce soir le rendez-vous annuel de la création musicale à la Maison de la Radio et de la Musique et sur les ondes de France Musique, beaucoup de concerts en direct. 6 jours avec en invité d'honneur le compositeur français Tristan Muraille, éminent initiateur de la musique spectrale. Il sera d'ailleurs en ligne avec nous dans quelques minutes. Bonjour François-Frédéric Guy.
Bonjour Jean-Baptiste.
L'un des interprètes privilégiés de la musique de Tristan Muraille. Vous allez créer plusieurs de ses œuvres samedi et dimanche. Des pièces pour piano, un concerto pour orchestre, Tristan Muraille, que vous mettez en miroir avec Claude Debussy, à la fois ce concert samedi, puis un nouveau disque intitulé Révolution, qui paraît le 4 mars, c'est la Dolce Volta, on va en écouter quelques extraits. Mais avant de plonger dans ce nouveau projet, on écoutait Beethoven, jazz, on entendait la chronique de Max Zosolm avec le ragtime qu'aurait peut-être inventé dans sa dernière sonate Beethoven. Vous validez cette idée? Vous entendez ça, vous aussi?
Ce qui est certain, c'est qu'on entend qu'il y a une rythmique incroyable et on comprend pourquoi cet ensemble et Daniel Humer se sont emparés du final de l'opus 26 de Beethoven. Mais quand je suis entré dans le studio, c'était un petit peu irréel parce que j'entendais, j'ai joué cette sonate et j'arrivais pas tout de suite à... Mais c'est vrai qu'avec ces contretemps, cette rythmique incroyable, cette variété, cette pétulance, je dirais, c'est vraiment, c'est idéal. J'étais vraiment épaté. Rappelez-moi que...
C'est les Swingle Singers, cet ensemble vocal jazz des années 60, 70, il y avait...
Incroyable.
Christiane Legrand, Anne Germain.
Et c'est d'un tel niveau technique. C'est ça aussi qui frappe, c'est que y a pas, chaque note de Beethoven est respectée. C'est ça qui est vraiment fabuleux, quoi.
On va parler un tout petit peu de Beethoven, si vous voulez bien. Il y a 2 ans, il y a eu les 250 ans du compositeur. Vous l'avez beaucoup, beaucoup joué, vous, le fou de Beethoven. Un peu moins que prévu. Ça a été dur pour vous de tourner la page de cet anniversaire un peu avorté ou finalement, il n'y a pas de page qui se tourne pour vous?
Disons que, de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que cette pandémie, ça a été quand même pour nous tous artistes une catastrophe absolue, hein, puisqu'on a perdu 90% de nos concerts, de nos revenus, et donc, voilà, la réalité de ce que les gens perçoivent pas forcément, toujours, mais en plus, évidemment, pour moi, singulièrement, l'anniversaire Beethoven a été tronqué et on l'orne déjà vers 2027. Hein. C'est pour se rattraper, je ne vous le cache pas. Mais donc, anniversaire de la mort de Beethoven, 2027. Et en tout cas, on avait réussi à sauver l'intégrale des concertos de Beethoven au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Et puis, dans cette maison, nous avions donné les 32 sonates avec 9 jeunes pianistes autour de moi. C'était vraiment ça a été vraiment formidable que Radio France organise ce cycle. Je suis très reconnaissant.
Vous avez eu une expérience particulièrement douloureuse, François-Frédéric Guy, c'est de partir en quarantaine à Hong Kong, si je me souviens bien, où vous êtes isolé pendant des semaines, et puis finalement, pour des concerts qui n'ont jamais eu lieu, parce qu'il y a eu des cas de Covid dans l'orchestre. Alors, bonne nouvelle, c'est que ces concerts vont avoir lieu dans quelques semaines.
Oui.
Ça a été une expérience très douloureuse.
Disons que c'était à nouveau, et comme tout, pendant toute cette pandémie, douloureuse, je ne sais pas, évidemment, mais surtout extrêmement frustrante. Une frustration permanente. C'est-à-dire qu'on travaille, on se projette dans un projet, et puis tout d'un coup, non, il n'y a plus rien, c'est le vide. Donc ça, c'était vraiment difficile à vivre. C'est vrai que la politique zéro Covid de Hong Kong et de la Chine en général pose vraiment problème pour ça. Alors j'ai une question que j'y retourne, mais pour l'instant, c'est quand même 3 semaines de quarantaine. Hein. Donc c'est une semaine de plus que la dernière fois. Espérons que les concerts auront lieu, disons.
Bon allez, dans un instant, Tristan Muraille, Claude Debussy. Mais il n'y a pas besoin d'être en 2020 ou en 2027, évidemment, pour écouter Beethoven. Là, il est à fond dans son Beethoven qu'il retrouve, ben, François-Frédéric.
Non, ça y est, on est à fond, là.
Le rondo du quatrième concerto avec le Sinfonia Varsovia que vous dirigez du piano sur cette très belle intégrale parue sur le label du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Révolution, c'est le titre de votre nouveau disque, là, chez la Dolce Volta. Mais il y a un point commun, Beethoven, Debussy, Tristan Murail, trois révolutionnaires.
Ouais, trois jalons, en tout cas, à mon sens, de l'histoire de la musique. Vous savez, ces grands continuateurs de la musique. Et on parlait tout à l'heure de Glazounov, qui est un très grand compositeur. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un grand continuateur de l'histoire de la musique? Voilà. Bon, mais Beethoven.
On peut l'écouter quand même et jouer avec plaisir.
Exactement, exactement. Et en tout cas, Beethoven, révolution encore maintenant. Debussy, qui invente presque la musique contemporaine, notamment avec son premier prélude du deuxième livre, Brouillard, où il brouille la tonalité. Et puis Tristan Murail, qui à mon sens est ce grand continuateur, lui-même parle d'influence, qui n'hésite pas à repartir d'objets connus pour après vraiment faire tout exploser. Et évidemment, un des grands créateurs de la musique spectrale. Mais il adore Scriabine, il adore Liszt, il adore Debussy, c'est un élève de Messiaen et puis c'est un grand continuateur car c'est un inventeur.
Mais précisément, le parallèle que vous faites sur ce disque que vous ferez au concert samedi, Debussy-Murail, c'est né de quoi, d'où?
Mais simplement aussi la musique française, la continuité de la musique française, la clarté française, le côté aussi, j'allais dire, post-impressionniste un siècle après, parce que l'impressionnisme du début du siècle, aussi bien en peinture qu'en musique, influence encore l'art à notre époque. Et je pense qu'on l'entend dans l'orchestration de Tristan Murail, aussi dans son piano. Forcément, quand on est compositeur aujourd'hui et qu'on s'intéresse au piano, Debussy est une référence absolue dans la texture, dans la technique de piano, dans les plans sonores, la magie aussi, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la musique de Tristan Murail, c'est la poétique, la magie, la beauté. C'est ça, la musique. La musique, c'est pas un système, que ce soit la musique spectrale, la musique sérielle, les systèmes, on s'en fiche complètement. C'est leur petite cuisine. Nous, ce qu'on veut entendre, c'est la beauté, c'est être transcendé par la musique. Et c'est là que Tristan Murail s'impose pour moi définitivement, à la suite des compositeurs que j'ai cités.
Comment vous l'avez rencontré, d'abord cette musique et ensuite le monsieur qui l'écrit?
Mais j'ai créé, en fait, co-créé son premier concerto pour piano en 2012, qui s'appelait Le Désenchantement du Monde. Je l'ai créé à Séoul. Je dis co-créé parce que Pierre-Laurent Aymard a été aussi le créateur dans d'autres villes. Et donc, à cette occasion, j'ai rencontré Tristan. Il est venu à Séoul. Nous avons sympathisé. Je crois que le courant est bien passé. Il savait que je m'intéressais aussi à la création, donc depuis toujours. Et donc est venue après cette idée d'un nouveau concerto. Entre-temps, j'ai créé plusieurs pièces solo, commandées notamment par le Festival de l'Orangerie de Bagatelle. Ça a été une rencontre très fructueuse. J'ai joué aussi d'autres pièces à Bruxelles, dans d'autres capitales. J'ai vu que le public aussi réagit. Il est évidemment déconcerté. C'est une musique étrange dans laquelle il faut entrer, mais comme un monde onirique, on ouvre une porte et tout d'un coup, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et on entre dans un monde enchanté. On est sur dans une autre galaxie. Mais voilà, il faut ouvrir grand ses oreilles et c'est le bonheur.
Samedi et dimanche, François-Frédéric Guy, en concert, la musique de Tristan Murail. Il sera avec nous dans quelques instants sur ce disque Révolution qui paraît le 4 mars chez la Dolce Volta. Parallèle entre la musique de Tristan Murail et Claude Debussy. Et vous parliez de cette pièce, Brouillard, peut-être ici la naissance de la musique de notre temps, de la musique contemporaine. Thank you. Incroyable musique que c'est Brouillard du deuxième livre des préludes de Claude Debussy. C'est sur le nouveau disque de François-Frédéric Guy, La Dolce Volta. En écoutant cette musique, vous étiez à nouveau fasciné.
Oui, je suis abasourdi parce que chaque fois que je l'entends ou que je la joue, je me dis mais c'est Brouillard, est-ce que c'est le brouillard qu'on connaît, qui est la brume dans lequel, de laquelle émergent la, voilà, la nature ou alors même les bâtiments, ou alors c'est le brouillard ou le brouillage de la tonalité, c'est les deux en même temps, c'est brouillage des habitudes, brouillard, on ne sait plus. C'est incroyable.
En ligne avec nous, Tristan Muraille, bonjour.
Bonjour.
Et vous, qu'en pensez-vous?
Bah, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire François-Frédéric. Il y a chez Debussy des choses qu'on a du mal à analyser, disons.
Quel est votre regard sur ce parallèle qu'établit François-Frédéric Guy au disque et au concert samedi au Festival Présence entre votre musique et celle de Claude Debussy?
Oui, c'est un parallèle que l'on fait souvent. Alors, bon, il y a toujours cette idée, vous savez, musique française, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond que cela. Une certaine attitude par rapport au phénomène sonore et puis une recherche de liberté dans l'écriture, par exemple.
Oui, c'est vrai. Bonjour Tristan. Oui, oui, tu as raison. C'est aussi effectivement cet objet sonore qui est aussi nouveau à l'oreille. C'est-à-dire qu'à partir de voilà, les notes de musique sont connues. Ce sont toujours do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, en tout cas ici, avec les dièses et les bémols, et quelquefois pour Tristan, les quarts de ton, etc. Mais l'objet, ce qu'on entend, est nouveau, avec ce matériau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est nouveau, c'est poétique, c'est visionnaire. Voilà.
Oui, bah, que puis-je ajouter, sinon que le piano ne peut pas jouer de quart de ton.
Voilà, malheureusement.
Mais pour vous, pour rappeler pour les auditeurs qui connaissent mal votre musique, Tristan Muraille, il y en a, c'est pas les notes qui comptent, ce sont les sons. C'est un raccourci.
Exactement,
un peu.
Ce qui compte, ce sont les sons. Et bon, souvent on me pose cette question, bon, vous utilisez généralement des micro-intervalles, etc. Mais alors le piano ne peut pas en jouer. Non, le piano ne peut pas en jouer.
Alors comment faites-vous?
Mais le son du piano, vous savez, le son du piano, ce qu'on appelle le spectre des notes, mais lui, il n'est pas tempéré. Donc si on joue avec les résonances, ce que faisait déjà Debussy, si on joue avec les résonances, on obtient parfois des sonorités qui sont qui paraissent se venir d'ailleurs, vraiment.
Oui. Et c'est ce qui donne, au sens de l'interprète aussi et de l'auditeur, ce côté onirique et magique. Je parlais tout à l'heure, je disais, on ouvre une porte et on entre dans un monde sonore totalement inconnu, alors qu'on pensait connaître ces notes, ces fameuses 12 notes. C'est magique.
Oui, c'est un peu le défi quand on écrit pour un instrument aussi, qui a un passé aussi riche que le piano, si vous voulez. Il y a toujours cette question de la connotation, etc. Mais on peut, voilà, je crois que pour le piano, pour d'autres instruments, mais aussi si on se réintéresse à des formes anciennes, on peut les réinventer, les réécrire de manière tout à fait différente et personnelle.
Et ouais, c'est exactement ça qui me passionne, moi, dans ta musique, et c'est reprendre, voilà, ça, se réapproprier des objets éventuellement du passé, mais pour les réinventer complètement. Et c'est ça là, un compositeur, pour moi.
Oui, je crois que tu as raison.
Bon, je vais vous laisser parler tous les deux. Non, petite question, Tristan Muraille. Ce piano, vous n'avez jamais eu la tentation de l'abandonner ou de le délaisser avec notamment l'informatique, vos ordinateurs? François-Frédéric Guy est en train de faire une prière en disant non de la tête.
Bah, je pense qu'on peut faire les deux, vous voyez. Je travaille par ailleurs, par exemple actuellement, à une pièce qui va utiliser de l'électronique, des transformations de son, etc. Donc, et tout en pensant à une nouvelle pièce pour un nouveau cycle de pièces pour piano.
Ah, quelle bonne nouvelle.
Une information non, ce matin.
Je pense que les expériences peuvent s'enrichir l'une de l'autre, en fait.
On évoquait Debussy, mais vous évoquez beaucoup Tristan Muraille, la lignée listienne de vos pièces. Qu'est-ce qui vous inspire chez Liszt? La technique?
Oui, entre autres. Mais tout à l'heure, vous citiez des compositeurs qui auraient un peu révolutionné l'histoire de la musique. Mais je pense que Liszt en est un. En fait, on l'oublie souvent. Mais
évidemment.
Mais déjà, bon, alors au niveau des techniques, bon, il a complètement révolutionné la technique de piano. Ça, c'est une des choses qui m'intéresse parce que je je regarde les partitions de Liszt, et en particulier les, ce qu'on appelle, vous savez, les hors-textes, là où on voit la partition d'origine, qui comporte les doigtés utilisés par Liszt, qui sont parfois surprenants, et ça donne des idées quant à la technique du piano. Et puis, il a révolutionné les formes. Quand on pense à sa sonate, c'est peut-être la première sonate pour piano qui utilise une forme cyclique. Quand on pense à la façon dont il traite le piano, les résonances du piano, c'est tout à fait nouveau. Et puis, juste à la fin de sa vie, il a commencé à écrire des pièces non tonales ou sans tonalité. C'était quand même incroyable pour l'époque.
Oui. Absolument. Et puis il y a une autre révolution, c'est la révolution poétique, c'est-à-dire qu'il pouvait s'approprier par exemple un texte d'un grand auteur et arriver à trouver des notes de musique qui se calquent précisément sur les mots de la poésie, ce qui était un peu totalement révolutionnaire. C'était, on l'a dans les harmonies poétiques et religieuses, par exemple. Alors, souvent je donne le cycle avec un acteur qui déclame le texte de Lamartine. On est vraiment scotché en voyant à quel point les formules de Liszt sont copiées entre guillemets sur les mots de Lamartine. C'est presque irréel.
On va écouter. Ouais. On va écouter votre musique, si vous voulez bien, Tristan Muraille.
Je le veux bien.
Cette pièce s'appelle Résurgence. On écoute le début et on en parle après. Le début de Résurgence, sous-titré La Sorgue à Fontaine de Vaucluse, de Tristan Muraille, avec François-Frédéric Guy, en concert samedi au Festival Présence, à la Maison de la Radio et de la Musique et sur France Musique, et sur ce disque qui paraît le 4 mars chez la Dolce Volta. Tristan Muraille, cette pièce, sous-titrée La Sorgue à Fontaine de Vaucluse, donc chez vous, comment est-elle née, vous qui êtes connu pour vos... votre imaginaire et votre goût du voyage. Vous êtes maintenant dans le voyage plus immobile.
Oui, c'est un voyage très très court en l'occurrence. En effet. C'est quelques 20 minutes de chez moi. Mais vous savez, on n'a pas besoin de voyager très loin pour voir des choses formidables. Et cette fameuse résurgence de la Sorgue et Fontaine de Vaucluse est une chose tout à fait extraordinaire. Je crois que c'est une des plus grosses résurgences au monde. Une résurgence, c'est-à-dire une rivière souterraine qui sort de terre et qui a inspiré beaucoup de gens, pour commencer Pétrarque d'ailleurs, qui vivait là pendant un certain temps. Ce qui crée un autre lien avec Franz Liszt d'ailleurs.
Oui, absolument. Vous voyez comme tout est lié.
Ah mais bien sûr.
Voilà.
Tristan Murail, je lisais dans Le Monde, pour ne rien cacher, que avant ce festival Présence et tous ces concerts, ces créations, vous, Tristan Murail, immense compositeur français, 75 ans dans un mois, vous aviez le trac, c'est vrai ?
Oui, c'est impressionnant en fait. J'ai déjà été invité à des festivals où j'étais invité, etc., mais jamais à une chose de cette ampleur en fait. Où cela va d'abord, ça couvre une période de temps allant de ma petite enfance jusqu'à maintenant. Et puis, des formations allant du piano ou du violoncelle solo jusqu'au grand orchestre. Donc, on peut se demander effectivement, comment est-ce que tout cela va tenir debout, en quelque sorte.
Je ne suis pas vraiment inquiet.
Je te remercie.
Non, c'est très sincère.
Vous, François Ferrigui, vous avez le trac de jouer devant le compositeur ?
Oh oui, alors ça, c'est sûr. Non, ça c'est vraiment. Alors, en même temps, c'est un très grand bonheur et une très grande chance de pouvoir, voilà, jouer devant un compositeur, un créateur. En même temps, effectivement, on se sent nous interprètes, on se sent petit, hein, on se sent. Donc, on essaye modestement d'essayer de lire la partition comme on la ferait avec n'importe quelle partition, avec une sonate de Beethoven, avec un prélude de Debussy, et d'en tirer le maximum de ce que notre expérience, notre énergie peut voir à travers le prisme de cette partition.
À quoi elle ressemble d'ailleurs, ces partitions, graphiquement ?
Ah, le graphisme de l'écriture de Tristan est vraiment tout à fait, j'allais dire, à la mesure de sa poétique. C'est-à-dire que il relie les notes avec il faudrait le voir évidemment pour l'auditeur, mais se relier avec des, comme ça, des traits, des tirets pour montrer la phrase. Et puis il a cette écriture Tristan, est-ce que c'est l'écriture proportionnée, c'est ça ?
À l'occasion. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la flexibilité rythmique
voilà.
Qu'on a donné, voilà, aux phrases que tu viens de définir, quoi, des cours, etc., qui soient expressives, naturelles. Alors, l'orthographe classique de l'écriture de la musique ne permet pas toujours de le faire, en fait. Donc, il faut inventer d'autres façons de noter, de façon à mieux restituer mes intentions et les transmettre à l'interprète.
Oui, c'est une liberté, mais extrêmement écrite et extrêmement précise. Alors pour l'interprète, au début, évidemment, c'est une difficulté redoutable. Comment gérer une telle liberté, tout en étant extrêmement précis.
Il nous reste une minute pour parler quand même de ce concerto. Vous allez créer le troisième concerto. C'est un concerto d'ailleurs, parce qu'il ne porte pas ce titre-là. C'est L'œil du cyclone, sous-titré Fantaisie impromptue. Tiens, il y a du Chopin là-dedans, Tristan Murail.
Ben oui, il y a. On a parlé de Liszt et de Debussy, mais il y a aussi Chopin.
Oui, il y a une référence.
C'est quand même le premier, avant Liszt, à avoir révolutionné un peu le piano. Hein.
Oui, c'est vrai. Et puis, tu parles d'une liberté, d'une flexibilité, du geste. Et justement, Chopin, c'est le premier à avoir écrit ces fameuses petites notes, dont tu te sers aussi maintenant au XXIe siècle d'une manière différente. Mais ces petites notes qui s'intègrent à une pulsation qu'on a appelée, voilà, c'est notre rubato, le rubato de Chopin, les petites notes qui s'intègrent et qui n'ont pas de rythme précis et qui doivent s'intégrer dans une pulsation et qui donnent cet extraordinaire foisonnement, cette liberté à la musique de Chopin, tout comme à celle de Tristan maintenant, au XXIe siècle.
Ouais. Rendez-vous dimanche, Tristan Murail, François-Frédéric Guy, pour la création de ce concerto pour piano qui sera diffusé quelques jours plus tard sur France Musique. Beaucoup de concerts en direct et ça commence ce soir dès 20h. Révolution, le disque paraît le 4 mars chez la Dolce Volta, ce parallèle, ce miroir, jeu de miroir entre Claude Debussy et la musique de Tristan Murail. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Demain, nous recevrons une légende du jazz. Le contrebassiste Henri Texier sera avec nous. Il y avait au générique de Musique Matin aujourd'hui Stéphane Poitevin, U2, Diego Aclopès, Marion Guillemet, Flora Sternadel, Pierre Matignon et notre chère Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu il y a une heure, la voix mystère, c'était celle de Claude Rich. Bravo à nos gagnants. Bonjour Émilie. Rebonjour. Bonjour Rodolphe.
Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Nous allons écouter du luth, de la harpe, de la viole de gambe. Les temps anciens s'annoncent dans notre émission pour faire contraste à la vôtre.
Baroque and roll avec vous.
À demain. Exactement. À demain.